TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Foot sur Beurre FM. Et oui, et oui, et oui, en mode Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Cameroun, le quotidien. Voilà l'émission, le journal quotidien de la Coupe d'Afrique des Nations, 20h, 21h, avec nos consultants ce soir qui seront là pour débattre, voilà, pour réagir sur les rencontres, notamment d'hier, les rencontres d'aujourd'hui, notamment. Il s'est passé encore pas mal de choses au programme de ce Time Foot. On parlera bien sûr de la Côte d'Ivoire, voilà, qui assure le coup, c'était hier soir, du Cameroun, voilà, qu'est-ce qu'a fait le Cameroun cet après-midi face à l'Éthiopie. On va y revenir avec nos consultants, sans oublier, voilà, un petit tour du côté de l'Espagne et le duo Benzema-Vinicius. Est-il peut-être le meilleur duo d'attaque au monde? On y reviendra avec nos consultants. Avec moi ce soir, Mickaël est avec nous. Comment ça va, Mickaël?
Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Ben, la forme, hein. Froidement, mais on est présent.
Il fait frisquet.
Ça fait un moment que je ne suis pas venu, donc ça fait plaisir d'être avec vous.
Ça fait plaisir, on va t'entendre. Achille qui est avec nous déjà, lundi, le réalisateur. Yannis et sa super coupe de cheveux me le rappelaient. Comment ça va, Achille?
Ça va, super bien.
Ouais.
Franchement, au top.
Au top. C'est le plus important. Vivien, en face de vous, avec les cheveux qui repoussent. Il est tout avec toujours. Nous ce soir, comment ça va?
Bah, ça va, bonsoir à tous nos auditeurs africains et quoi qu'il arrive, vive l'Afrique.
Ok, par contre les auditeurs européens, asiates, sud-américains, de l'Océanie, on oublie.
Non, parce qu'ils comprendront, parce qu'on a tous l'Afrique et le berceau de l'humanité et tout a commencé là-bas.
Allez, tout de suite le JT.
Time Sport.
Oui, on démarre les infos du jeudi par l'officialisation enfin du transfert de Cédric Bakambu en faveur de l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024. Pour rappel, le Congolais de 30 ans s'engage libre de tout contrat. Une autre officialisation, il s'agit de celle de Lionel Messi, d'ores et déjà annoncé forfait face à Brest ce week-end. Pour le Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin n'aurait toujours pas repris l'entraînement collectif depuis son retour d'Argentine. Un mot d'athlétisme, les organisateurs du meeting indoor de Paris ont choisi ce jeudi, la date du 6 mars, pour reprogrammer la compétition initialement prévue ce 22 janvier, mais décalée en raison des contraintes sanitaires. Et enfin, un mot de tennis, l'organisation de l'Open d'Australie a publié un communiqué ce matin pour annoncer l'ouverture de l'entraînement public de Novak Djokovic, qui attend toujours officiellement de savoir si oui ou non il pourra disputer la compétition qui démarre dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour les infos du jeudi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et ouais, on passe le bonjour à Bilal qui est pas avec nous ce soir. J'ai donc la lourde tâche, voilà, de remplir cette mission. On passe au premier sujet.
Time Sport.
Le sujet des sociaux, on parle beaucoup de l'Algérie, du Sénégal, mais il y a aussi notamment des sélections, Achille, comme la Côte d'Ivoire, vainqueur 1-0 de la Guinée équatoriale grâce à un joueur bien connu de notre Ligue 1, Max-Alain Gradel.
Ouais, match, c'est un match ennuyant, je crois. Très ennuyant, non, faut dire les choses comme telles. C'était un match ennuyant, on attend beaucoup plus de la Côte d'Ivoire, qui a quand même un effectif, un des plus beaux effectifs de ce continent africain. On attend beaucoup plus de ces joueurs de percussion. On a quand même, il faut quand même bien le préciser, durant cette compétition, et encore plus donc les Ivoiriens, ils détiennent le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc compétition la plus relevée dans le paysage européen, et à l'heure actuelle il est toujours muet. Ça pose quand même un vrai souci. Il s'impose que 1-0 face à une valeureuse équipe guinéenne. Néanmoins, moi je reste déçu, je reste sur ma faim par rapport à ça. Parce que la Côte d'Ivoire a certes peut-être maîtrisé la rencontre, mais on s'attend à avoir beaucoup plus, de jeux, beaucoup plus de percussions. Et je suis désolé, après, bon, ça reste que effectivement la première rencontre des éléphants. Donc on va attendre de voir effectivement s'il y aura un regain de forme pour la deuxième rencontre et on avisera.
C'est vrai que alors Achille, tu fais comme référence à cet effectif de qualité. Mickaël va réagir juste derrière. On parle quand même de Maïga que l'on connaît, de Sankaré, de Série, de Caissier, de Gradel, de Sébastien Haller qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions évoluant à l'Ajax d'Amsterdam, de Cornet, Bailly. Enfin,
oui, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Sur le papier, oui, c'est sûr que la Côte d'Ivoire c'est l'une des toutes meilleures équipes de cette CAN. Après, je te trouve un petit peu dur dans le sens où comme tu l'as bien précisé à la fin de ta prise de parole, ça reste quand même le tout premier match de la Côte d'Ivoire. J'ai pas trouvé que le match était catastrophique, j'ai trouvé vraiment brouillon, moi, pour ma part. Pas inintéressant, avec une équipe guinéenne qui a, je trouve, vraiment tenu la dragée haute aux Ivoiriens. Et sur le plan, après, concernant Sébastien Haller, je suis assez dubitatif dans le sens où c'est quelqu'un qui est mis dans de très bonnes dispositions du côté de l'Ajax et là qui se retrouve dans une équipe qui j'ai l'impression n'est pas là pour vraiment pour garder le jeu quoi, qui n'est pas là pour faire le jeu, qui est plus là pour jouer en transition. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Et après un petit mot pour Max-Alain Gradel qui a connu de gros soucis dans sa carrière, notamment de graves blessures. Et je trouve que c'est une bonne revanche de sa part de marquer comme ça un but vraiment magnifique. Donc voilà, je suis content pour Max-Alain Gradel, comme tu l'as dit, qu'on a vraiment bien connu en Ligue 1, du côté de Toulouse, du côté de Saint-Etienne.
Et sans oublier quand même Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, il y a du beau monde.
Il y a une très très grosse équipe.
Vivien, on s'attend à plus du côté de la Côte d'Ivoire, déçu de la rencontre.
On n'attend plus, alors c'est juste que moi je vois le verre à moitié plein et Achille à moitié vide. Mais je partage l'exigence d'Achille, malgré tout, avec même pas le 11, avec cet effectif, la Côte d'Ivoire peut prétendre à une demi-finale. Et par exemple, Cornet, hier, j'ai trouvé qu'il était en difficulté, manquait de percussion. À l'heure, peut-être qu'il a manqué un peu de ballon. Enfin, je l'ai trouvé, il a un petit peu bougé à la charnière, mais je sais pas, il a pas pu vraiment bien s'exprimer. Et puis, il faut pas oublier, par rapport à Gradel, alors avant le match, beaucoup de gens débattaient même sur le 11 de départ. Est-ce qu'il fallait mettre Pépé? Est-ce qu'il fallait mettre... Et beaucoup de gens même ont remis en cause le sélectionneur qui titularise Max-Alain. Il y a quand même 34 ans, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Qui a 34 ans, qui a fait partie quand même, la Côte d'Ivoire s'est imposée il n'y a pas si longtemps.
2015. Ouais, 2015.
Et avec un grand Max-Alain Gradel, même si bon, il n'est plus tout jeune. Oui. Ça reste quand même un mec, joueur d'expérience.
Je trouve que c'est quelqu'un en sélection qui apporte. Alors il a un petit peu disparu des radars, parce qu'il faut rappeler qu'il joue à Sivasspor. Même s'il a été élu meilleur ailier de Turquie en 2021, mais bien sûr on peut se dire que c'est un championnat de seconde zone, etc. Donc... forcément, il y avait un petit peu de doute par rapport à la nouvelle génération qui évolue dans des clubs un peu plus prestigieux, mais il a fait le boulot, comme a souligné Mickaël, dans les circonstances qu'on connaît. Il y a quelque chose à exploiter.
Est-ce que c'est pas l'image, justement, Achille, Mickaël, Vivien, de ces grandes nations, premier match, peut-être des joueurs qui sont arrivés un petit peu sur le tard, s'adapter aussi peut-être à l'environnement,
non,
mais etc.
Il y a peut-être un peu de ça. Après, au niveau des profils des joueurs, moi j'insiste, j'ai du mal à voir cette équipe vraiment prendre le jeu à son compte. Je pense que ça sera du début à la fin une équipe qui va jouer plutôt en transition et en contre. Ils ont des profils pour ça. Je veux dire, quand tu as des joueurs comme Zaha, Pépé, Cornet et même Haller.
Mais quand un milieu de terrain avec Sankaré, Série, Caissier, t'es quand même capable de ça veut dire que tu es capable
produire du jeu.
De le ballon, Mickaël,
oui, c'est sûr. Mais après, pour moi, quand tu regardes le premier match, c'est quand même contre la. J'ai rien contre. Enfin voilà, ça reste une équipe modeste, la Guinée équatoriale. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois comment ils ont entamé le match, pour moi, ça montre une envie de jouer plutôt en transition et en contre-attaque. Et le problème, c'est qu'ils vont pas jouer toujours contre de grosses équipes qui vont tenir le ballon. Donc je suis un peu dubitatif sur cette équipe de Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition.
Merci Mickaël. Achille.
Non, moi, par rapport à ça, quand on dit l'adaptation, je pense que la Côte d'Ivoire, contrairement aux autres favori, grosse nation africaine, a été favorisée parce que la Côte d'Ivoire a joué à 20h son premier match. Le terrain était moins catastrophique que par exemple que le premier match de l'Algérie, où on a vraiment senti que les Algériens ont tenté de produire du jeu, mais sur un terrain qui ne favorisait absolument pas le jeu. Alors certes, ils ont marqué, ils ont gagné, ils ont fait le travail. On va se contenter des 3 points, on va pas en demander trop non plus. Néanmoins, je suis désolé, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de jouer un football de transition face à la Guinée équatoriale. C'est pas possible. Quand tu vois la qualité de l'effectif, et tu fais bien de le préciser, Vivien, quand tu prends les 23 ou 24 Ivoiriens, c'est pas possible que la Côte d'Ivoire puisse, face à la Guinée équatoriale, encore Non, c'est pas que je n'aime pas les équatoriens.
Non, ils ont été malheureux
par rapport à ça, mais c'est quand même une nation qui est inférieure de par ses résultats et même en termes de qualité par rapport à la Côte d'Ivoire. Et je suis désolé, moi, la Côte d'Ivoire doit imposer un rythme et doit asphyxier le plus rapidement possible ses adversaires, d'autant plus quand ce sont des adversaires qui sont de qualité inférieure.
Bien, merci. Justement, si on reprend sur ton argumentaire sur le rythme, moi j'ai le même truc, les Ivoiriens ont beaucoup baissé de pied en deuxième mi-temps. Même à partir de la 60e, on avait l'impression que la Côte d'Ivoire était très heureux de garder ce résultat. Donc ça prouve que clairement il faudra faire beaucoup mieux.
Mais même pour aller dans ton sens, beaucoup de gens oublient. Mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer par le Cameroun lors des éliminatoires pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ouais. Donc, et on n'a pas vu une Côte d'Ivoire qui était très revancharde, avec les dents limées. Bien au contraire, on voit encore une Côte d'Ivoire qui est timorée. On ne sait pas trop. Je ne comprends pas pourquoi il y a un débat sur potentiellement Gradel qui a 34 ans. Certes, c'est vrai qu'il est quand même un très bon footballeur, mais qui est quand même sur la pente descendante. Tu as quand même des joueurs qui n'arrivent pas à prendre le leadership, type Zaha, ouais. Pépé, ouais. On se pose quand même des questions sur cette équipe. À un moment donné, quand on voit, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, à titre de comparaison, le Cameroun, on voit qu'il y a certains joueurs qui prennent le leadership de leur équipe, et ça se ressent automatiquement sur le terrain. En Côte d'Ivoire, c'est qui le leader ? On va dire qui, c'est Gradel, 34 ans ?
Bah pour moi, oui, c'est l'impression que ça donne. Clairement.
C'est un peu compliqué.
Après, c'est lui qui a marqué.
Il a été décisif.
Il a son passif en Côte d'Ivoire qui parle pour lui. C'est très juste que tu dis, Achille, il y a des joueurs qu'on attend à un niveau bien, bien supérieur, que ce soit Nicolas Pépé et Wilfried Zaha.
Ils étaient tous les deux sur le banc.
Voilà, mais je veux dire. Oui, mais justement, ils sont sur le banc. Pourquoi ? Parce que au final, avec la sélection, ils n'ont jamais vraiment prouvé. Et assumer le statut qu'ils ont aujourd'hui en première ligue. Et ça, c'est un problème quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire. Tu mérites d'avoir des joueurs qui viennent représenter leur pays et de tout donner comme Zaha peut le faire en première ligue, comme Nicolas Pepe peut le faire du côté d'Arsenal. Donc ça, c'est aussi un problème du côté de la Côte d'Ivoire.
Donc leader du groupe E, la Côte d'Ivoire devant donc l'Algérie, la Sierra Leone 1 point, donc la Guinée 0, la Côte d'Ivoire qui recevra la Sierra Leone. On se dit quoi à vous entendre, ils peuvent être tenus en échec face aux Sierra Leonais.
Ça va dépendre de Mohamed Camara.
C'est ça exactement.
Si Mohamed Camara et
mais les Camara ils sont partout.
Ils sont partout après.
Il sortira pas un match.
C'est comme les Martins, mais si jamais il reproduit la prestation qu'il a faite face à l'Algérie, Je mettrai pas une pièce sur la Côte d'Ivoire.
Bah après, il était en état de grâce contre l'Algérie, Romain Camara. Donc
mon pari, c'est qu'il va faire une bonne compétition et je vois bien avoir des propositions et faire une carrière correcte en Europe. Je pense justement que c'était pas un one shot, moi, parce que
après, c'est pas
les arrêts de qualité qu'il fait contre l'Algérie.
C'est certainement un très bon gardien, mais ce que je veux dire, quand tu vois le match qu'il a sorti contre l'Algérie,
oui.
C'est limite le match de sa carrière, quoi. Donc,
oui, mais il y a des gardiens, on peut se dire, c'est un état de grâce, c'est un one shot, c'est un coup, mais il y a eu 2-3 arrêts de qualité où on s'est dit, ah, lui, il a quelque chose.
Oui, ça se voit que c'est un gardien,
oui, je pense que. Donc, c'est vraiment peut-être un match piège. Et peut-être attention à la Côte d'Ivoire. Attention.
C'est le match piège, sachant qu'ils jouent l'Algérie après. Pour eux, ils vont se dire.
C'est-à-dire que s'ils ne gagnent pas cette rencontre-là, ça risque d'être, si jamais ils s'inclinent, derrière, il y a potentiellement une finale contre l'ogre algérien. Ça risque d'être très, très, très compliqué pour la Côte d'Ivoire. Donc, à mon humble avis, ils devraient s'imposer.
Oui, parce que mais
ils sont qualifiés.
Ah oui.
Néanmoins, n'oublions pas quand même qu'il y a les 4 meilleurs 3e qui seront repêchés pour les 8e de finale.
Rapidement, un mot, les garçons, sur ce même groupe, ce match nul entre l'Algérie et la Sierra Leone. Voilà, avec le portier qui a été en état de grâce, qui a été performant. Qu'avez-vous pensé de la performance des Algériens ? On en attend bien sûr beaucoup.
On en attend plus, beaucoup trop inefficace, parce qu'au-delà de la prestation de Mohamed Camara, ils ont eu les occasions, ils ont eu l'occasion notamment en fin de match pour faire la différence, et ils l'ont pas fait, donc ça reste préjudiciable. Après, comme l'a dit aussi Achille au début de l'émission, quand tu vois l'état du terrain qui était vraiment un champ de patates, bah, tu te dis quand même que quand c'est une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même une compétition prestigieuse, c'est vraiment dommage, vraiment dommageable d'avoir une telle pelouse, et ça rend pas du tout hommage à cette compétition.
Moi, je pense que ça a été un petit peu une bonne claque pour l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie s'attendait à s'imposer. Ils ont eu la main mise sur le jeu, beaucoup d'occasions, mais comme tu l'as dit, très inefficace. Et entendre le sélectionneur Belmadi et certains joueurs après le match, on a l'impression que c'est presque peut-être ce qui pouvait leur arriver de mieux dans cette CAN où ils paraissent largement favoris.
Achille, l'Algérie.
Je dirais pas une claque, mais je dirais une bonne piqûre de rappel. Je pense que ça va aider grandement Jamel Belmadi à faire prendre conscience aux joueurs que c'est pas un acquis.
Qu'il va falloir se battre.
Il va falloir se battre, il va falloir y aller. Parce que, certes, c'est vrai, au-delà, parce qu'on a tous l'impression que l'Algérie a perdu. Non, l'Algérie a pris un point. C'est vrai, dans des conditions qui étaient extrêmement compliquées, contrairement à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, justement, jouer à 14h, avec des pauses fraîcheurs, avec un terrain qui ne favorise pas, et par la suite, un gardien adverse en état de grâce. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de positifs à retirer de cette rencontre. Néanmoins, il faut qu'il y ait quand même du réalisme côté algérien, sous peine, probablement, de finir éliminé.
Ouais. Est-ce que vous connaissez un joueur de la Sierra Leone?
Mohamed Camara.
Il y a eu plusieurs Camara.
Merci Achille, page de pub. On se retrouve juste après pour la suite de Time Foot sur Beurre FM.
Time Foot revient dans un instant. Revient dans un instant. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur Time Foot, votre émission foot spéciale Coupe d'Afrique des Nations durant ce mois de janvier, la Coupe d'Afrique qui a lieu au Cameroun avec mes consultants du soir, Achille Mickaël, Vivien avec moi. On a débattu notamment sur la victoire difficile, les victoires quand même des Ivoiriens, 0 grâce à ce but de Gradel. Donc la Côte d'Ivoire qui jouera contre la Sierra Leone, tandis que l'Algérie devra réagir face à la Guinée équatoriale. On passe au deuxième sujet.
Time Sport. Le duel.
On attendait un peu plus de buts, on a eu un peu de spectacle, même si, voilà, ça fait quand même du bien de voir ce type de rencontre. Le Cameroun s'impose assez facilement, si on peut dire, si on voit le score, 4-1 face à l'Éthiopie. Mickaël, mérité, rien à dire, convaincant.
Plutôt mérité. Après, ils ont eu un début de match compliqué avec l'ouverture du score des Éthiopiens. Ils ont été pas mal bousculés en début de rencontre et ils ont su réagir et mettre les occasions avec leurs deux armes offensives principales que sont Aboubakar et surtout Karl Toko Ekambi qui ont marqué tous les deux un doublé pendant ce match. Donc on attendait un deuxième victoire de rang pour le Cameroun, c'est fait. On attendait des buts parce que mine de rien depuis le début de cette CAN, on n'a pas eu pléthore de buts. Donc 4-1, c'est la grosse victoire de ce début de CAN. Et donc c'est plutôt mérité pour le Cameroun, même s'ils n'ont pas non plus fait un match exceptionnel dans le contenu.
Merci Mickaël. Alors je rappelle, c'est Dawa Otessa Doukele qui avait ouvert le score pour l'Éthiopie, et puis doublé de Toko Ekambi qu'on connaît bien et de Vincent Aboubakar, l'ancien Lorientais Achille.
Ouais, pour avoir vu la rencontre, je pense que le Cameroun a été un petit peu attentiste au début de cette rencontre. Les Éthiopiens ont mis tout de suite une grosse intensité, mais j'ai envie de dire, dans le contenu, le Cameroun a été solide, a été à taille patron en fait, quoi.
Surtout en deuxième mi-temps. Oui, mais la deuxième mi-temps est vraiment exceptionnelle.
Après, certes, c'est vrai que ils ont concédé très très rapidement l'ouverture du score, mais l'équipe ne s'est absolument pas affolée. On n'a pas vu tout de suite c'est les paniques à bord et autres, etc. Ils ont tenté de produire du jeu. Et effectivement, ils ont marqué sur le point faible des Éthiopiens, c'est-à-dire le coup de pied arrêté sur des centres. Donc, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est un bon point en ce qui concerne le retour de Vincent Aboubakar. Hein, faut pas l'oublier, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition à l'heure actuelle. En attendant,
quel but déjà. Quel but en deux matchs, l'air de rien. Et ouais, Vincent Aboubakar.
C'est pas rien. On a vu aussi Toko Ekambi qui a été très très bon. Néanmoins, attention, parce que au niveau de la défense camerounaise, il y a eu quelques oublis
dans la
charnière centrale. Ouais. Où tu te dis, bon, peut-être que... Mais c'est une équipe qui, à mon humble avis, est en train de monter en puissance. Et je pense que ça va être très compliqué. Plus les rencontres vont s'enchaîner, plus ça va être très compliqué de les battre. Même si, par rapport à cela, il y a quand même quelques petites failles encore. Mais quand on voit Colin Faye, tout simplement, Colin Faye, qui est le latéral droit de cette équipe camerounaise,
qui est évolue au Standard de Liège.
Voilà, qui est à l'origine, suite à une erreur d'inattention, du but de l'Éthiopie. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Passe décisive, et puis occasion de but pour lui. Ça prouve la notion de caractère qu'il y a derrière de ces lions indomptables qui n'ont fait qu'une bouchée de ces Éthiopiens. Et par la suite, on va attendre de voir ce que ça va donner. Ça va permettre aussi au Cameroun de faire tourner pour ce troisième match, parce qu'ils sont d'ores et déjà qualifiés, premier pays qualifié. Donc ça fait quand même pas mal de bons points pour le Cameroun.
Vivien, tu le disais en off, gros potentiel offensif du côté des Camerounais. Par contre, défensivement, on attend quand même de voir.
Oui, que bah, la fameuse charnière Castelletto, bon, Ngadeou, bon, à chaque fois je prononce pas très bien. Malgré
le Nantais, Jean-Charles Castelletto.
Exactement. Il y a eu cet oubli en début de match où je trouve qu'ils sont un petit peu surprenants d'entrée, mais on va dire si on est exigeant avec eux, justement, on projette eux très très loin parce que forcément, t'organises à domicile avec un effectif pareil, tu vises que le titre. Donc, je trouve qu'il y a quelques largesses qui peuvent être problématiques contre des potentielles grosses équipes en quart, demi et finale.
Après, c'est possible.
Défensivement, ouais,
défensivement, après, c'est possible. Mais quand on voit la prestation qu'ils ont faite.
Ah, offensivement, c'était génial.
Face à la Côte d'Ivoire, avant le début de la compétition, enfin, avant le début de la CAN dans les éliminatoires, où ils ont maîtrisé des pieds à la tête la Côte d'Ivoire sur deux rencontres, match aller-retour. Offensivement, la Côte d'Ivoire, c'est pas des peintres.
Non, c'est pas des peintres non plus.
Donc j'ai envie de te dire, bon, peut-être qu'ils se sont un petit peu relâchés. Il se dit, bon, on mène au score, on peut y aller un peu plus tranquille. Mais le coach portugais de la sélection camerounaise est quand même assez intéressant avec ce système un peu hybride de 3-5-2 ou 4-2-3-1. C'est quand même assez intéressant et c'est solide, quoi.
Les prestations, les garçons de notamment Eric Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, Toko Ekambi, Zambo Anguissa au milieu qu'on a connu à l'OM.
Bah moi, j'ai trouvé un peu effacé Choupo-Moting. J'ai pas trouvé
le registre peut-être.
Ouais, je trouvais qu'il a pas réussi à s'exprimer. Même tu le voyais un peu sur le côté droit en début de match.
Ça a été un peu mitigé pour lui.
Exactement.
Mais par contre, Aboubakar extrêmement précis. Ouais. Et de plus en plus, en fait, c'est comme le bon vin. Plus vieilli, plus il devient de plus en plus fort.
Un vrai buteur. Quoi.
C'est le
sens du buteur.
C'est ça, à travers les réseaux sociaux, je l'ai même appelé le retour de l'enfant prodige. Pour dire, en parlant de Vincent Aboubakar, et quand tu vois ses prestations, comme il a l'habitude de le faire, hein, parce que on peut voir sur ses statistiques comme il joue à Al Nassr. Si je dis pas de bêtises, c'est en Arabie Saoudite, c'est ça. 15 matchs, 12 buts.
Et puis c'est quand même quelqu'un qui a confirmé au niveau, qui a été un buteur de Porto pendant un bon moment, qu'on connaît en Ligue 1 aussi du côté de Valenciennes. C'est quand même un joueur qui a aujourd'hui 34 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc il y a déjà un gros CV derrière lui. Et c'est pas étonnant de le retrouver à ce niveau-là. Je trouve qu'il a pris beaucoup en
maturité.
En maturité, exactement. Il fait les bons gestes au bon moment. Il n'y a pas de fioriture. Et c'est vraiment, on le voit, 4 buts en 2 matchs, c'est impressionnant.
C'est ça. Mais surtout, Karl Toko Ekambi qui se met à mettre des buts.
Ouais.
Donc à côté du moment où Karl Toko Ekambi se met à mettre des buts,
c'est bon.
Ça commence à devenir. Oui, mais il marque. On ne dit pas le contraire. Mais quand tu fais le ratio de occasion créée, occasion convertie, c'est pas le joueur.
Oui, qu'on voit toute l'année en championnat.
Voilà, toute l'année en championnat. Néanmoins, ça commence à devenir très 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 solide.
Il y a d'autres joueurs que l'on connaît bien aussi. Il y a Boaken.
Qui est rentré
également, qui est rentré en jeu, Clinton Enji qu'on a connu à Lyon, à Marseille, et Léa Siliki, l'ancien Rennais,
qui a fait une très très bonne rentrée d'ailleurs aussi, il a fait une très bonne rentrée, très intéressant dans le jeu. Justement, il a remplacé Eric Choupo-Moting. Je pense le Cameroun a une sélection qui est peut-être moins forte en termes d'individualité, contrairement contrairement à une époque où même quand tu regardes par rapport à l'Algérie ou par rapport à la Côte d'Ivoire, mais tu sens qu'il y a collectivement parlant, c'est très 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 costaud, quoi. Donc c'est assez intéressant.
Mickaël, tu voulais réagir, merci Achille.
Je trouve qu'il y a une bonne homogénéité dans cette équipe. Il y a un bon collectif Et de toute façon, comme l'a dit, comme ils l'ont dit Achille et Vivien, c'est eux qui organisent la compétition. Tu sens que ça va être très dur d'aller chercher quoi.
Est-ce qu'ils ont le meilleur portier africain? Le Cameroun.
Bah, clairement. Je vois pas
André
qui.
André Onana.
Je vois pas qui.
À part si l'autre irait sur son nuage du Sierra Leone, monsieur Camara.
Oui,
potentiellement.
Et même le Cameroun a les meilleurs gardiens. Oui. Faut pas se leurrer quoi. Mmh. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu fais l'état des lieux effectivement des gardiens de but, clairement. Après, c'est vrai
Thomas
que.
Thomas Nkono, Bell.
Ou autre. Mais c'est vrai que, quand même attention, parce que Onana a de temps en temps des sautes de concentration qui peut porter préjudice au Cameroun.
Comme son dégagement en deuxième mi-temps.
Dégagement raté.
Il
prend un carton jaune.
Ça reste un portier assez fantasque. Hein. Onana, c'est un gardien impressionnant. De toute façon, on l'a vu du côté de l'Ajax en Ligue des Champions. C'est un gardien qui est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, il me fait un peu penser à Ochoa dans le style. Je sens que c'est quelqu'un qui peut faire des arrêts de fou, etc. Mais qui peut avoir à un moment donné une faute d'inattention, une erreur de main, la peau de pêche, et tu dis qu'il aurait pu éviter tel ou tel but. Donc... C'est un joueur qu'il faut qu'il soit dans qui peut être aussi dans des états de grâce, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure pour Mahamat Camara.
Vivien.
Et puis l'autre aspect qu'on peut rajouter, c'est qu'en termes de caractère, le Cameroun, c'est la seule équipe qui a été menée au score et qui a gagné ses matchs. Dans tous les matchs, toutes les équipes n'ont fait qu'un seul match, mais en termes de stats, ça montre quand même le caractère de l'équipe. Et je sens vraiment qu'on voit la patte du sélectionneur. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je vais prendre l'expression de fouteux, le groupe vit bien, etc. Mais que le sélectionneur, il a mis une patte où t'as vraiment que, je sais pas, il y a pas d'égo, t'as vraiment qui se passe, il y a pas d'accro pour l'instant. Et moi je trouve que c'est un ciel bleu pour l'instant, quasiment. Ça se passe vraiment bien pour l'instant.
Cameroun, on se dit quoi, minimum demi-finale? Il y a le potentiel.
Honnêtement, il y a le potentiel pour être dans le dernier carré, enfin d'être dans les quatre derniers, parce que quand tu regardes bien, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà gagné la CAN. Et ça fait son importance. Contrairement à d'autres sélections qui ont de très bons joueurs. D'ailleurs, pour souligner, parce que j'ai reçu un message de Mourad qui parle d'Edouard Mendy, mais Edouard Mendy n'a pas encore joué avec le Sénégal, hein, parce qu'il était quand même sur le carreau.
En tant que portier, oui, on peut dire que ce sont les. Oui, c'est vrai qu'Edouard Mendy est.
Edouard Mendy aussi est présent, il y a aussi Alfred Gomis, mais par rapport à ça, je pense que le Cameroun a à la fois un bon collectif, a à la fois l'expérience de la CAN et le savoir-faire pour pouvoir remporter une compétition. Donc effectivement, quand on fait l'état des lieux des équipes qui sont présentes, qui sont en lice durant cette compétition, c'est vrai que dans les quatre, ils devraient y être. Au même titre que d'autres sélections comme l'Algérie, à mon humble avis.
Comme le dit Mourad qui vous écoute ce soir et que l'on salue, on a le sentiment que les Lions indomptables doivent se retrouver dos au mur pour performer. Est-ce que vous êtes d'accord avec son ressenti? Non, Michael, qui nous a dit que Aboubakar avait 34 ans alors qu'il n'en a que 29.
Ah ouais.
On fait confiance à Afrique pour les âges quand même.
Après, j'ai l'impression que depuis que je suis le foot, je connais Vincent Aboubakar.
Il a débuté très jeune à Valenciennes.
Exactement.
Très très jeune. Non, mais après, pour en ce qui concerne ta question, coach Tolé, je sais pas.
Ouais. Après, on peut dire qu'il ne faut pas qu'il s'amuse à être mené tous les matchs. Comment dire ça? Faut pas s'amuser à. Comment le dire ce... Ne pas le dire vulgairement. Oui, faut pas.
Faut être vigilant.
Faut pas répéter ce scénario à tous les matchs, parce qu'au bout d'un moment, ça passera plus, non?
Ouais. Non, c'est vrai, il a raison. Après, ça démontre quand même une certaine force de caractère, mais une certaine tranquillité. C'est-à-dire que quand même lorsque le Cameroun est mené au score, la maison, elle brûle pas.
Mais par exemple, moi, j'aimerais bien le voir faire un clean sheet pour le troisième match. Je trouve que ce serait un meilleur signe si le troisième match, ils gagnent en faisant un clean sheet. S'ils font même un 2-0, je trouvais ça encore peut-être plus fort que de les voir faire un 5-2 par exemple au troisième match.
C'est possible, ouais.
Parce que je trouverais qu'il y aurait en plus de la puissance offensive qu'on connaît, une espèce d'assise défensive qui se mettra en place.
Donc
au
vous
voulez
que ça pose 1-0 que 8-1.
Voilà,
et c'est, d'accord, ok.
Comme on dit, l'important c'est les 3 points.
Ah,
donc,
l'important c'est les 3 points.
Ça vaut de marquer un but de plus que l'adversaire.
C'est ça. Votre ressenti, les garçons, sur ce qui s'est passé un petit peu hier, la rencontre notamment entre la Tunisie et le Mali. Le Mali qui, parce qu'on en a pas assez parlé, mais s'impose quand même dans un match entre outsiders solides de cette CAN, les incidents de fin de match. Rachid, ton ressenti.
Ouais, mais alors, bon, au-delà, je vais y venir après des incidents. Le Mali.
La rencontre, oui.
Ouais, en ce qui concerne.
On en parle pas assez.
Voilà, la rencontre. Le Mali, pour moi, maîtrisait la Tunisie des pieds à la tête. Hormis, effectivement, chez Penalty, qui, à mon sens, bon, c'est discutable, on peut discuter, mais au moins on démontre que l'arbitrage à ce moment-là de la rencontre n'était pas mauvais, il faut bien le signaler. Même si en première mi-temps, le Mali aurait pu bénéficier de deux pénaltys qui n'ont pas été aussi sifflés, je pense que le Mali est une équipe qui est quand même très solide et qui va poser beaucoup de soucis à d'autres sélections, d'autres nations africaines. Après, en ce qui concerne les faits de jeu qui ont fait le tour du monde, alors moi j'ai un problème avec ça.
Alors quel est ce problème pour toi, Achille ? Non,
moi j'ai un problème, c'est-à-dire qu'on mélange tout en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on remet tout en cause en disant voilà, c'est l'Afrique, voilà, ils savent rien faire, un problème pour les hymnes, et voilà celui-ci qui arrête le match à la 85e, il arrête à la 89e, il veut pas revenir, il a une insolation. Wow, on est tous des êtres humains.
Achille, Gambie, Mauritanie, donc l'hymne qui a été quand voilà, même aussi, retrouvé à trois reprises. Hein.
J'entends bien, mais ouais, faut pas oublier aussi que l'équipe de France, qui est quand même double championne du monde, avec des effectifs encore peut-être plus importants en ce qui concerne les fédérations, s'est aussi également trompé. À un moment donné, il faut arrêter de taper sur l'Afrique, même si effectivement c'est un fait, à mon humble avis, isolé. Ça peut arriver, on est tous des êtres humains, mais on n'a absolument pas à se dire que oui, comme c'est l'Afrique, et ben en même temps c'est normal, etc. Non, pas du tout. C'est un fait, faut le signaler, dire que c'est pas bien. Néanmoins, il faut arrêter de taper sur l'Afrique et à dire que oui, comme d'habitude, c'est la CAN, l'arbitre, il a été vendu, l'arbitre ceci, l'arbitre cela, de manière, il était déjà corrompu. Ça veut dire que, en fait, quelqu'un qui commet une erreur à un moment donné, et d'ailleurs, qui a été innocenté, faut bien le préciser aussi, quelqu'un qui commet une erreur à un moment dans sa vie n'a pas le droit à une deuxième chance. C'est ce que ça veut dire.
C'est pas la question. Après,
donc à un moment donné, si c'est pas la question, qu'est-ce qu'on doit faire?
Non, mais c'est vrai. Réaction, Mickaël, après Vivien.
Faut arrêter. Non, aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux où tout tourne extrêmement vite. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça s'est passé et ça fait le tour du monde en quelques secondes. Après, ce qui est un peu dérangeant, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est que c'est comme pour la pelouse pour Algérie Sierra Leone ou les hymnes nationales, ça donne pas une bonne image de.
Mais est-ce que ça donne image de l'Espagne quand il y a les mêmes faits qui se passent? Est-ce que ça donne une bonne image de la Ligue des Champions quand on se retrouve avec un arbitre PSG Barcelone qui fait n'importe quoi? Barcelone Chelsea,
tout ça a été dit.
Mais non, mais c'est pas une question que ça a été dit
sur la Ligue 1 et même souci en avril dernier, on a très peu entendu parler
sur la Ligue des Champions. C'est vrai que en fait il y a un côté un peu de taquinerie avec l'Afrique qui est un peu énervant. Je suis d'accord avec toi, Achille, parce que quand il y a eu le problème au niveau des tirages au sort de la Ligue des Champions, ça a été évoqué, ça a été moqué aussi en termes de gestion de l'UEFA, mais c'est vrai qu'on est passé vite à autre chose. Après, là, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses qui se sont un petit peu enchaînées, et c'est vrai que pour une compétition comme la CAN, aussi importante que la CAN, je trouve ça dommageable qu'on est à peine au début de la seconde journée et qu'on ait déjà autant de soucis.
Quand on voit un arbitre qui est quand même un arbitre de renom dans le football français qui s'appelle Tony Chaperon, qui dans le même match
met un coup, si ça se passe en Afrique, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait dit.
Et d'ailleurs, pour le dire, pour le protéger, on l'exclut pas parce que c'était sa fin de saison. On dit bon, il peut partir tranquillement et autres. À un moment donné, faut arrêter.
Mais ça a été.
Il faut. Non mais
Achille,
c'est pas une question.
Ce qu'il faudrait dire, c'est que l'Europe n'a pas de leçon à donner.
Je veux dire, ce qui a été dit.
Mais c'est ce qui se passe. En fait, c'est de la condescendance.
Non mais justement, il y a certaines personnes qui ont cette condescendance et c'est énormément. Je suis d'accord avec toi. Je suis de ton côté. Il faut combattre ça. Je suis d'accord. Après, quand il se passe des choses comme ça en Europe, quand tu parles de Tony Chaperon, ça a été récupéré de la même façon sur les réseaux sociaux. Ça a été critiqué et moqué de la même façon sur les réseaux sociaux et ça a attiré à boulet rouge sur l'arbitrage français, donc en fait je vois pas qu'il y a pas forcément un...
Non mais parce qu'on remet en cause, à cause de ces faits isolés, toute la compétition. Or que depuis le début de la compétition, l'arbitrage a été parfait. Aucune équipe n'a été avantagée ou désavantagée par rapport à l'arbitrage. En ce qui concerne hormis potentiellement ce qui a été dit comme de par hasard après la rencontre Mali-Tunisie, les Tunisiens qui auraient leur entraînement qui aurait été perturbé à la suite d'une attaque, une potentielle attaque terroriste. Après ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en l'occurrence, si c'est vrai, j'espère que le staff tunisien est bien protégé. Je fais confiance aux autorités camerounaises pour protéger toutes les sélections africaines présentes sur le territoire. Néanmoins, à un moment donné, il faut arrêter. Et je ne veux pas qu'on ait cette condescendance à tout le temps dire, voilà, c'est l'Afrique, c'est normal, il y a toujours des erreurs, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Non, non, non. Parce que quand il y a des erreurs qui se passent en Europe, le tirage de Ligue des Champions, depuis quand on peut se tromper de la sorte, en fait? C'est pas possible. Il y a beaucoup de faits qui sont avérés. Quand il y a des erreurs d'arbitrage, des erreurs de VAR, on en parle tout le temps. Mais oui, on en parle, mais quand c'est l'Afrique, c'est la fin du monde. C'est c'est l'Afrique. Mais non, je suis pas d'accord.
On a le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup trop de moqueries, peut-être.
Il y a deux poids, deux mesures.
C'est les réseaux sociaux, ça. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un sujet tourne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moqueries. C'est vraiment dommageable. Là-dessus, c'est vrai, il faut pas tout remettre en cause. Il faut pas stéréotyper. Il faut pas mettre tous les arbitres, toutes les fédérations dans le même sac. Après, quand il y a des erreurs, il faut les dire. Quand il y a des erreurs en Afrique, il faut les dire. Quand il y a des erreurs en Europe, il faut les dire. Et puis, basta.
Vivien, réaction.
Sur cet arbitre, on sait, voilà, il est passé à côté, tout simplement. Mais comme a dit Achille, pour moi, le niveau de l'arbitrage sur cette CAN, il est très bon. On a eu déjà une dizaine de matchs. Là, on est en train d'entamer le deuxième match. Ça s'est bien passé. Il y a eu très peu de contestations, de pénalty, de hors-jeu, enfin tout ce qui fait d'habitude.
Il n'y a plus d'erreurs flagrantes.
Voilà, exactement. Il n'y a pas eu tout ce qui fait débattre tous les passionnés de foot qu'on est. Donc ça se passe bien. Il y a eu un arbitre qui est passé à côté. Même aujourd'hui, il est à l'hôpital. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il est passé à côté. Je ne sais pas quel type d'hôpital. Est-ce que c'est psychiatrique? Est-ce que c'est normal?
Après, c'est vrai que c'est regrettable. Et je peux me mettre à la place, effectivement,
de la Tunisie.
Mais il faut quand même remettre les choses aussi dans leur contexte. Il arrête le match à la 89e minute. Il n'arrête pas à la 75e minute. Donc quand je vois les revendications...
La première fois, il arrête à la 85e.
Non, mais quand je vois les revendications du staff tunisien qui demande à rejouer le match...
Ils sont malins, on aurait tous fait ça. C'est de la mauvaise foi, mais on l'aurait tous fait.
Dans ce cas de figure, la CAF a la possibilité de dire que il y a eu une erreur qui a été manifeste. Ils ont tenté, la CAF a tenté effectivement.
C'est ça, la CAF a tenté de reprendre la rencontre. Ont refusé.
A priori, les Tunisiens auraient dit qu'ils étaient déjà partis, qu'ils n'auraient pas eu l'information. Partant de là, ils s'exposent à une sanction.
À une défaite 3-0, oui, bien sûr.
3-0, c'est ça.
Allez, on se retrouve juste après ça.
Time Foot revient dans un instant.
Revient dans un instant. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Foot, l'émission football. 4 Coupes d'Afrique des Nations avec Vivien, avec Achille, avec Mickaël, avec moi et puis avec Yanis. On aimerait tous avoir la même coupe que notre réalisateur. Yanis, sujet suivant.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Allez, on quitte le continent africain pour, l'Europe. Mais non, le match ne s'est pas déroulé en Europe, mais en Arabie Saoudite. Ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, c'est ça, si je ne me trompe pas, demi-finale.
La Super Coupe d'Espagne.
Ouais. Avec encore le duo Benzema-Vinicius qui a brillé. Déjà, votre avis sur cette rencontre?
Une belle rencontre. Alors, moi, ça m'a un petit peu dérangé hier parce que il y avait quand même beaucoup de matchs à regarder en même temps, de manière simultanée. C'était soit Côte d'Ivoire qui affrontait Vivien.
L'Éthiopie, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Il y avait aussi en parallèle donc cette demi-finale de Super
Guinée équatoriale.
Merci.
L'Éthiopie, c'était tout à l'heure.
Voilà,
Je sais que les auditeurs qui nous écoutent, ils savaient très bien que je testais notre plateau.
Ouais. C'est ça. Et en parallèle de ça aussi, il y avait la Cup avec Chelsea aussi qui jouait. Mais bon, on a quand même guetté un petit peu ce Classico. Ça a été un match assez magnifique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que le duo Benzema-Vinicius a été encore une fois efficace, plus qu'efficace, a fait des misères à la défense catalane. Mais moi, perso, je suis désolé. Hein. Moi, mon duo d'hier soir et de ce soir, ça reste quand même Vincent Boubacar et Toko Ekambi. Hein. Ouais. Vous me racontez ce que vous voulez. Mais c'est ça, voilà, c'est comme ça.
Ouais, pourtant, Benzema, c'est un ballon d'or. Si je vais parler comme Yacine, Benzema mérite tous les ballons d'or de la Terre, de la Lune, de Mars, de Namek et tout ça. Donc, t'as Benzema Vinicius, c'est comme si t'avais Olivier Hatton et Ben Baker. Je trouve que le duo, il est, franchement, cette année, il est hyper complémentaire. Enfin, quand t'as un Vini comme ça qui est en confiance, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et j'imagine même pas le Real l'an prochain avec des potentiels recrues qu'on entend tout le temps dans la presse. C'est génial, en tout cas.
Michael, est-ce que tu rêves justement devant ce duo ou ce Real Madrid?
Je rêve, on va dire non plus que je rêve. Après, moi, je suis vachement impressionné par Vinicius parce que, étant donné ses prestations sur les dernières années, tu sentais qu'il avait beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse. Je le trouvais très limité dans ses décisions et son niveau de prise de décision à des moments importants. Et là, vraiment, cette saison, il a passé un cap incroyable. Là, cette fois, il fait les bons choix. Là où avant, devant les cages, il faisait un bon choix sur 5 ou 6. Et Benzema aussi, de son côté, je pense qu'avec un joueur comme ça, qui mange la profondeur, lui, il peut se régaler parce que ça lui permet aussi de pouvoir un peu plus redescendre, d'être un peu plus entre les lignes. Et Vinicius le rend bien aussi. Donc, quand Benzema fait des passes à Vinicius, des passes décisives, des assists à Vinicius, l'inverse est également vrai. Donc, c'est vrai que c'est un duo qui marche vraiment vraiment très très bien aujourd'hui, et c'est vraiment le facteur X aujourd'hui du Real Madrid, parce que si tu enlèves Vinicius et Benzema, il y a pas vraiment de joueurs qui plantent beaucoup derrière, donc ça repose beaucoup sur ces deux joueurs là et pour revenir au match, moi j'ai été aussi un peu surpris par la prestation du FC Barcelone, qui dans le jeu a réussi aussi à bousculer le Real. Et surtout ce but en prolongation vraiment magnifique du côté du Real Madrid, conclu par Valverde. Mais en tout cas, quand tu regardes aujourd'hui l'effectif du FC Barcelone qui a des joueurs où tu te dis je veux pas être médisant avec certains joueurs, mais je veux dire, quand tu regardes Luc de Jong ou aujourd'hui Dani Alves qui a 67 ans, tu te dis que le Barça mériterait quand même une équipe au-dessus. Mais malgré ça, je trouve que Xavi arrive à concocter quelque chose d'intéressant contre le Real hier.
Alors, priorité au direct Bourima Hassan Bandé qui permet pour le moment au Burkina Faso de mener 1-0 face au Cap Vert. Réaction, le Burkina 1-0.
Pourquoi pas, logique, on va attendre de voir, parce que le Burkina a pour habitude de souvent ouvrir le score. On va voir s'ils vont réussir cette fois-ci le tenir ou l'aggraver.
Il y a encore Ryan Mendes au Cap-Vert, non ? Il n'est plus là ?
Je crois qu'il n'a pas été sélectionné, je crois pas. Il y a Julio Tavares qui est là, mais je crois
justement,
pas
on attendait de voir comment, si la belle aventure du Cap-Vert allait se prolonger dans ce match. Et on attend de voir si menés au score, ils seront capables de réagir dans ce match. C'est ce qui va être intéressant.
Après, pour revenir en Europe et sur le Classico, moi j'ai été agréablement surpris de la prestation de Dembélé, qui a été le fer de lance. C'est le patron de l'attaque de Barcelone, en fait. Ça a été le patron. Tous les ballons passaient par lui. Il a fait des misères à Carvajal. Et justement, si le FC Barcelone a pu aller jusqu'en prolongation, c'est grâce aux dribbles incessants, aux attaques incessantes de Dembélé. Contrairement à Ferran Torres, où j'attendais à ce qu'il y ait ce penchant, et je pense que c'est ce que Xavi a cherché à voir, du déséquilibre des deux côtés, mais le jeu a clairement penché côté gauche, et ça fait plaisir de voir Ousmane Dembélé jouer de la sorte. Et d'ailleurs, à titre de comparaison aussi, Asensio, côté Real Madrid, en fait, ça a joué en diagonale. Le Real a joué du côté gauche, c'est-à-dire Vinicius, Benzema, et Barcelone a joué côté Gavi et Dembélé. Donc les côtés droits de ces deux équipes espagnoles laissent un petit peu à désirer, après à voir pour la suite. Mais c'est vrai que c'est de très bon augure, comme il l'a bien indiqué Michael, pour Barcelone, parce qu'ils ont quand même réussi à tenir la dragée haute au Real Madrid, même si peut-être pas dans le jeu, mais ils ont réussi à convertir leur occasion à des moments clés, ce qui a permis de nous procurer encore un peu plus de plaisir, de 120 minutes de plaisir.
En tout cas, Xavi était quand même relativement satisfait de la performance de ses joueurs. Vivien, réaction ?
Bah, c'est un Barça qui a su bien réagir et vraiment leur fin de deuxième mi-temps, je trouve qu'elle est même assez exceptionnelle. Enfin, ils ont vraiment eu 20 minutes en fin de match où ils posent vraiment vraiment leur patte sur leur jeu, et le Real a vraiment beaucoup souffert entre la fin de la deuxième mi-temps et le début de la prolongation jusqu'au troisième but libérateur. Je trouve que le Barça m'a même étonné, moi, sur quelques minutes. Donc, on peut se demander, est-ce que la patte Xavi commence à prendre? Est-ce que j'attends de voir en Liga, mais on a l'impression que le Barça va commencer à revenir petit à petit, en tout cas.
Mickaël.
Ouais, c'est ça. C'est, on sent que Xavi, bah, il vient d'arriver. Il a commencé à sortir certains joueurs de la Masia. Je pense au petit Nico. Il commence à mettre sa patte, comme l'a dit Vivien, mais il va lui falloir du temps. C'est comme pour Ferran Torres, qui est vraiment un excellent joueur. J'ai d'ailleurs un peu de mal à comprendre pourquoi City s'en est séparé. Bon, certes, ils ont quand même des munitions devant, mais
ça reste... pas.
Ouais, il jouait pas, mais je veux dire, quand t'as un joueur de cette qualité-là,
c'est lui qui a voulu partir.
Ouais, je sais, mais je veux dire, c'est quand même dommage, sachant que de base, il jouait quand même pas mal en début de saison. Après, Sterling qui a été mis sur le banc au départ est revenu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très bon joueur. Il va lui falloir aussi du temps pour s'intégrer dans cette équipe, qui a un collectif qui est quand même balbutiant encore aujourd'hui, avec des joueurs où on attend encore beaucoup plus, avec des joueurs aussi qui sont quand même sur la fin. Je pense à Sergio Busquets, qui reste quand même dans tous les cas un très bon joueur de ballon. Donc quand il a le ballon, il niveau passe courte, il a pas trop de soucis. Après, tu sens quand même qu'aujourd'hui il a quand même
il faut qu'il arrête le foot.
C'est en comme fait, pour Dani Alves. Non, j'ai du mal à comprendre. Il y a des choix qui sont faits par cette direction du Barça et j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre.
Bah, garder Piqué aussi.
C'est toute cette génération.
Surtout que Xavi avait une bonne idée en arrivant, c'est-à-dire faire monter beaucoup de joueurs de la Masia. Et ça que je comprends pas.
Mais vaut mieux un défenseur de la Masia que Piqué.
C'est qu'il y a ce parallèle entre Xavi qui arrive et qui met du neuf, et tu sens quand même que ça fait du bien, c'était effectif.
En même temps, il avait pas trop le choix.
Et de l'autre côté, des joueurs qui sont encore là, et tu te demandes, pourquoi Dani Alves était derrière?
Vestiaire, expérience.
C'est son relais sur le terrain, mais
c'est ça.
Mais
qu'il le prenne en adjoint, comme coordinateur sportif.
Bah après, c'est peut-être possible qu'il, dans son contrat, il a peut-être une reconversion de ce côté-là. C'est vrai qu'il faut préciser, moi ça m'énerve. Alors pourtant, je suis absolument pas fan du FC Barcelone, mais quand je vois composition d'équipe, Piqué et surtout Sergio Busquets, faut arrêter. Oh, vous êtes en train de tuer. En fait, quand on voit que dans l'équipe, il y a des joueurs capables de prendre la relève, type De Jong. Ouais, Frankie De Jong qui doit jouer à la place de Busquets, mais qui ne peut pas jouer parce que Busquets, il veut pas lâcher le steak. Jordi Alba, c'est-à-dire que les papis flingueurs à Barcelone. Non seulement ils flinguent les finances du club,
il faut passer à autre chose. Voilà, aussi, il faut renouveler,
ils finances du club, mais sur le terrain, ils foutent rien. C'est-à-dire c'est un zéro pointé. À un moment donné, si le Barça veut revenir sur le devant de la scène, parce qu'il faut savoir aussi, en championnat, ils sont pas très très bien placés. Ils vont peut-être essayer de se battre pour aller en finale d'Europa League. C'est absolument pas gagné. Comme tu le dis bien, Vivien. De ce côté-là, il faut tourner la page, prolonger Umtiti pour inscrire deux joueurs. Mais c'est quoi? On va où, en fait? C'est n'importe quoi.
Petit mot mercato, on reste sur le FC Barcelone. Morata au Barça.
A priori, Allegri ne veut pas le laisser partir.
D'accord. Donc, on se dirigerait sur quel attaquant? On sait que le FC Barcelone cherche une pointe. On parlait de Cavani à un moment.
Cavani a dit qu'il voulait rester. A priori, ça reste encore un peu flou. On ne sait pas trop s'ils vont recruter dès maintenant un attaquant.
Tokoué Kambi ou Aboubakar, non? Tes attaquants préférés, Achille, du moment?
Aboubakar, il a 29 ans.
Je pense pas que. Parce qu'il va falloir s'aligner sur les prétentions salariales de ces joueurs-là. Et ça m'étonnerait que Barcelone ait les moyens de pouvoir.
Surtout qu'ils ont quand même lâché 45 millions pour Ferran Torres cet hiver déjà. Donc
55
bonus. Et puis,
oui, dernier mot mercato, Cédric Bakambu, attaquant de la RDC, qui bien sûr ne figure pas en Coupe d'Afrique des Nations, a signé à l'Olympique de Marseille. Réaction?
Bonne pioche. Il arrive gratuit.
Mais le seul mal, c'est qu'il n'a pas joué depuis 4 mois. Et dans quel état physique il va arriver?
C'est pas grave. Parce que c'est un pari.
C'est un très pari. Bon choix, mais
il faut lui
laisser le temps. Et est-ce qu'à Marseille, on a le temps? C'est ça le problème.
Oui,
j'ai pas de doute sur ses qualités et sa capacité de s'adapter, mais.
Non, mais il y a le temps, là. Je veux dire, il y a quand même un effectif.
On parle d'un joueur qui a performé du côté de Villarreal en Liga, qui a aujourd'hui que 30 ans. Après, le souci, c'est qu'il a pas joué depuis 4 mois.
Mais donc, tu mets 4 mois pour revenir.
Ouais, après. De toute façon, ça va lui faire bizarre d'arriver à Marseille avec Sampaoli. Je pense qu'il va cracher ses poumons sur les premiers entraînements.
Sampaoli le voulait, ça fait des mois l'OM aurait été négocié pour l'avoir.
Je pense qu'il est super. Voilà, il a dû parce que là on arrive vraiment sur la signature. Mais je pense que depuis un moment, ça reste un professionnel. Il s'entretient bien, donc je pense qu'il n'aura pas un si gros déficit comme a pu avoir Tem Ben Arfa parce qu'il n'a pas joué pendant une saison complète. Après. Reste à voir, quoi. Il y a quand même aussi une autre info Mercato qui est quand même assez importante.
Vas-y, Achille.
Mertens, qui ne va pas prolonger à Naples, et c'est quand même assez important. De Laurentiis ne veut pas activer l'option de prolongation, et donc encore un deuxième Napolitain qui va quitter le Napoli après Lorenzo.
Napolitain historique, quand même. Hein.
Ouais, c'est ça, après Lorenzo Insigne. C'est une page qui se tourne.
Merci Achille, merci Vivien, merci Mickaël, vous avez été performants, merci de nous avoir écoutés dans ce Time Foot. Je rappelle ce score donc à la mi-temps entre le Cap-Vert et le Burkina Faso 1-0, et je rappelle que cet après-midi, le Cameroun a écrasé l'Éthiopie 4-1 et la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouveau Time Foot.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.